Quand vous disiez que le Parlement pouvait s'opposer, mais il y a des procédures après qui font que sa décision va être discutée, ça va repasser tout un tas de, il y a tout un circuit. Donc concrètement, est-ce que fréquemment le Parlement a dit non? Et quand il a dit non, le processus qui a été enclenché, est-ce que ça a maintenu la décision du non du Parlement ou est-ce que ça a été inversé? Est-ce qu'on a une vision de quand le Parlement s'oppose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sa position est maintenue ou est-ce qu'elle est modifiée à la suite de ce processus de cogestion?
Bon, il faut pas exagérer le nombre de fois où ils s'opposent. Hein. Ça, c'est une première chose. Prenons un règlement qui est souvent cité là, qui est le règlement REACH. Hein. Alors c'est un acronyme pour. Voilà, c'est quand même un règlement qui, s'il était appliqué dans les pays. Enfin, tout le monde était d'accord avec ce règlement, hein, qui fixe, même si certains pensaient qu'il allait pas assez loin, mais qui réglemente quand même. Oui.
Il y avait beaucoup de flou qui était mis dedans. Est-ce que c'était volontaire ou pas? On peut se poser la question.
REACH, c'est un acronyme anglais, ça veut dire. C'est la réglementation sur les normes. Enfin, le taux de pesticides, les produits chimiques, non, mais c'est un truc qui a été très longtemps, hein, quand même. Il y a une chose que j'ai pas dite, mais je vais d'abord répondre à cette question-là sur la procédure d'élaboration. Donc, rappelez-le-moi, parce qu'il y a quand même, c'est assez long, hein, et il y a d'autres intervenants. Hein, il y a les intervenants fantômes, là, il y a les vrais et les autres. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour la directive portuaire? Eh bien, elle est arrivée, celle dont j'ai parlé, elle est arrivée en fin de mandat du Parlement européen. Et la Commission n'a rien trouvé de mieux quand le nouveau Parlement européen est entré en fonction, n'a rien trouvé de mieux que de le représenter à peu près à l'identique. Alors là, contrairement à ce à quoi on aurait pu attendre, le Parlement européen l'a rejeté immédiatement, hein, considérant qu'on se foutait de sa gueule, quoi, en fait, parce que ça joue aussi, ça, dans le... Comment dire, dans la mentalité des parlementaires. Bon, en tout cas, celui-là, il a disparu de la circulation. Mais l'exemple, alors là, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, au moins implicitement, mais qu'on retrouve ailleurs, c'est la directive Bolkestein. C'est-à-dire la directive Bolkestein, bon, c'est vrai que la charge, enfin, la critique la plus forte dans la discussion de la directive Bolkestein avait été faite au principe du pays d'origine. Donc la Commission, ils sont pas idiots, ils ont dit, mais si on veut refaire quelque chose, on va le faire morceau par morceau, et surtout, on va utiliser toutes les circonvolutions possibles, mais on va surtout pas parler du principe du pays d'origine. Enfin, on va pas le nommer en tant que tel. Donc ils ont partagé ça en plusieurs directives, dont la directive récente sur les travailleurs détachés, où ils ont évité les mots qui fâchent. Alors moi, je suis pas. Il faudrait voir ça. Moi, je peux vous dire que ce que j'en lis ou les discussions que je peux avoir, pratiquement aujourd'hui, elle est en vigueur, quoi, sous des formes différentes. Donc, voilà. Mais l'époque a changé aussi. C'est bon, en tout cas, ce truc qui avait été mis en avant, bon, qu'ils ont été obligés de retirer, hein, parce qu'il y avait quand même eu un vote. Voilà, c'est revenu. Mais ça, je pense que dans la politique, malheureusement, ça doit être assez fréquent. Donc voilà, mais probablement que c'est ça qu'ils essaient de jouer le plus, et c'est en cela. C'est en cela que le monopole de la proposition l'a donné à la Commission est un élément clé enfin qu'il faut enlever à la Commission parce que le Parlement immédiatement après Bolkestein, après l'avoir rejeté, il aurait pu, enfin s'il n'y avait pas ce monopole, hein, il aurait pu dire voilà, nous on met ça à la place. Mais ça, c'est pas possible, parce que la Commission, dans ce cas-là, retire son projet. C'est simple. Hein. Ça s'est passé comme ça, en tout cas. Plutôt que de l'amender, la retirer.
Ce qui illustre un petit peu ça aussi, c'est l'absence de directive ou de notion de définition du service public, qui a été demandé depuis 30 ans et qu'on n'en a toujours aucune...
Alors, je me demande quelles sont encore les possibilités qu'a un pays de s'opposer dans une certaine mesure à la Commission. Quelle est la réalité des sanctions ? Jusqu'à maintenant, je pensais toujours que les sanctions, ça venait plutôt de la Banque centrale, qui n'accorde plus des crédits ou des facilités. Mais vous avez dit que si un pays n'applique pas les règlements, il est sanctionné. Quelles sont ces sanctions ?
Oui. Alors d'abord, la Banque centrale européenne, et c'est bien l'aspect le plus controversé actuellement par la gauche, la vraie gauche dans les traités, c'est que la Banque centrale, elle peut prêter aux banques, mais elle a interdiction absolue de prêter aux États. Hein, c'est ça le fameux... Bon, ceci dit... Alors, il faut s'entendre sur le mot règlement, là. En français, en tout cas, on n'est pas tellement habitué à ce vocabulaire. Donc, on dit règlement... Non. Règlement, ça a quelque chose de très précis en Europe. Ça a un sens très précis. C'est pas, c'est à distinguer de réglementation ou de régulation, un truc comme ça. Règlement, c'est une loi qui s'applique une fois qu'elle a passé par le circuit, c'est une loi qui s'applique. Or, les derniers, puisque j'ai parlé du Tupac, les deux derniers règlements prévoient en quelque sorte que le pays qui est mis en demeure par la Commission de rentrer dans les clous, de revenir à 3%, mettons, de déficit, qui n'y arrive pas ou qui ne le fait pas, non seulement il y a des sanctions, mais ces sanctions sont automatiques. Hein. C'est-à-dire que ils sont quasi automatiques.
Et l'Allemagne et la France n'ont pas été sanctionnées, à ce que je sache, au début des...
D'abord, ils n'y étaient pas encore. Et puis ensuite, il faut quand même dire que c'est la Commission, c'est toujours la même chose, qui propose des sanctions, et c'est le Conseil européen qui l'a. Alors jusqu'alors, je vais pas entrer dans les détails, mais il y a une majorité qualifiée pour que le Conseil européen soit décide à l'unanimité, par exemple pour changer les traités. Décide à l'unanimité, c'est pour ça que c'est quasi impossible de changer les traités. Soit pour des décisions de ce type-là, ils décident à la majorité qualifiée, c'est-à-dire c'est-à-dire chaque État est pondéré. Enfin, Malte n'a pas le même poids que l'Allemagne. Il en a quand même un peu plus que ce à quoi il aurait droit si on appliquait une stricte proportionnalité entre les 300 000 habitants de Malte et les 80 millions d'Allemands, vous voyez à peu près la proportion. Donc, en tout cas, c'est un calcul assez subtil qui donne une majorité qualifiée, qui est relativement difficile plus facile à atteindre que l'unanimité, mais quand même, ils votent pas. Là. Jusqu'alors, les injonctions de la Commission qui proposaient des sanctions pour un État. Pour qu'elles deviennent effectives, il fallait que le Conseil les adopte à la majorité qualifiée. Hein, c'est qui est plus fort que la majorité. Hein. Ce qu'a changé le règlement, c'est que dorénavant, pour qu'un État, alors suivez bien, c'est pour qu'un État ne soit pas sanctionné qu'il faut réunir une majorité qualifiée. Alors c'est, je sais pas si, donc c'est, ça n'a, serait équivalent si c'était 50-50. Mais si c'est, mettons, 60, s'il faut 75% des voix, c'est plus facile de les réunir, en accord avec une décision de la commission que contre une décision de la commission. Hein. Bon, non, mais ça c'est un détail. Mais c'est des sanctions. Alors j'ai pas les chiffres là, mais j'aurais dû d'ailleurs, qui sont fixés. C'est-à-dire c'est un pourcentage du PIB. C'est de l'argent qui alimente directement le budget européen et il est perdu. Hein. C'est-à-dire si donc si avant si les grands États n'ont pas été sanctionnés, c'est que parce que la Commission pouvait, elle a même pas fait d'ailleurs, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Elle a même pas fait. Elle n'a pas proposé. Enfin, elle pouvait penser que c'est pas. Aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait, quand même. Hein. C'est quand même ça, ces choses-là qui pèsent sur les décisions budgétaires qui normalement devraient être souveraines dans les États. Alors, vous en avez une illustration concrète aujourd'hui, parce que la France, comme elle n'y arrivera pas. Eh bien, ils ont, comme toujours en Europe, ils ont négocié. Donc la France, c'est dans ce contexte-là que la France et d'autres pays ont eu droit à une rallonge d'un an ou deux. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des processus lents, assez lents quand même. Hein. Ils vont pas se faire cueillir au petit matin par une descente de police. Et les sanctions sont relativement lourdes. Hein, de toute façon, comme au Conseil européen, il y a une majorité de pays aujourd'hui dont les dirigeants sont des libéraux, mais alors vraiment libéraux, libéraux. Hein, là, si jamais on en vient, hein, c'est très récent cette affaire-là. Hein, il vient d'être voté ce règlement. Hein. En tout cas, c'est même si ça s'applique pas, ça pèse quand même. Hein, ça empêche.
Oui, j'ai alors une question. Imaginons que demain, il y ait une majorité de gauche, mais de vraie gauche, au Parlement. Donc, dans tout ce que vous nous avez décrit, vous avez commencé d'ailleurs par nous dire qu'historiquement, il y a eu un gain progressif du pouvoir du Parlement. Donc, pour vous, à votre avis, quelle est votre position? Est-ce que si demain, effectivement, on a une vraie gauche, on pourra, de l'intérieur, changer en fait les rapports de force et faire en sorte, par exemple, que la Commission européenne n'ait pas le pouvoir qu'elle a aujourd'hui. Enfin, parce que vous avez commencé, c'est vrai, c'était assez, ça donnait un peu d'espoir le début là de la conférence avec on a eu un gain progressif du pouvoir du Parlement. Donc voilà, et c'est cette question-là qui se pose aujourd'hui en fait.
Bien sûr. Bien sûr, c'est ça la question qui est la plus difficile. Hein. C'est clair que enlever à la Commission son pouvoir d'initiative, c'est changer un aspect central des traités en cours. Donc, ça veut dire changer les traités. Pour changer les traités, c'est l'unanimité, c'est bon, donc les personnes, on l'avait, souvent dans les textes du monde diplomatique, c'est quelque chose qui apparaît. Hein, donc l'idée qui est maintenant assez générale quand même, hein, chez les gens qui contestent l'Europe comme elle se construit actuellement et qui pensent que ça peut pas continuer comme ça, c'est de provoquer une crise institutionnelle. Parce que le truc un peu théorique, la vraie gauche majoritaire au Parlement européen, ça voudrait dire que, elle devrait aussi être majoritaire dans beaucoup de pays, quoi. Donc ça. Bon, aujourd'hui, c'est même pas sûr que les que les socialistes aient la majorité, enfin, soient le premier parti, hein, aux élections. Non, 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 mais d'accord. Bon, donc l'idée, c'est de provoquer une crise en s'appuyant sur un exemple historique, hein, qui est le fameux compromis de Luxembourg. Hein, c'est De Gaulle, mais c'était autre chose qu'Hollande. C'est-à-dire qu'il a dit un jour, puisque c'est comme ça, moi je viens plus. Donc il a bien fallu qu'ils discutent et ils sont arrivés à un compromis qui dit en gros que lorsque une décision même prise dans les conditions normales porte atteinte, si un État estime que des décisions prises portent atteinte à ses intérêts vitaux, il peut les refuser, quoi. Normalement, il est toujours en vigueur ce compromis de Luxembourg. Donc l'idée, c'est... Enfin, ou soyons concrets. Si Hollande avait été de la vraie gauche et s'il avait été à Bruxelles en disant « Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne marche plus », bon, on peut penser que ça aurait... D'abord, il aurait été suivi par d'autres, hein, et que ça aurait provoqué... Ça aurait fait... ça aurait, oui, provoqué une crise, quoi. Hein, donc... Comme tout le monde a quand même intérêt, économiquement au moins, hein, à ce que le grand marché, enfin, ou la politique agricole commune ou des choses comme ça, quand même, ça a apporté des choses au pays. Comme tout le monde a intérêt, finalement, à ce que tout le monde au niveau des États, hein, je ne parle pas des individus ou des partis politiques, hein, puisque il y en a même qui boycottent les élections européennes, d'autres qui, enfin, ils ont, mais sans entrer dans ce, enfin, sans aller jusque là, une crise provoquerait nécessairement une discussion dans des conditions différentes que celle-là, quoi. Alors. Ben, il faudrait qu'il y en ait un qui le fasse, qui soit suffisamment quand même. Il vaudrait mieux que ce soit la France ou l'Allemagne que Malte ou la Grèce. Hein. Et surtout, il faudrait que ça se ramollisse pas quand ça monte à Bruxelles, parce que c'est ça le problème quand même. Hein, jusqu'ici, moi, je crois que quand Hollande disait « je vais tout casser », il devait y croire un moment. Mais arrivé là-bas, quand il a vu qu'il a vu ses petits copains, hein, du même parti lui dire que c'était pas possible, hein, il a dû reculer. Ou alors il a sciemment menti. Hein, c'est possible aussi, ou les deux. Mais en tout cas, c'est... Non, mais pour être plus dans le dur, si je peux dire, c'est aujourd'hui, disons, que les personnes qui... enfin, les partis, disons, de la vraie gauche, comme vous dites, sont à peu près tous sur cette ligne-là. Hein. C'est-à-dire essayer de faire en sorte d'être en situation de provoquer une crise. Mais elle pourrait aussi être provoquée par un mouvement social. Hein. Ça, il n'y a pas... Ça s'est produit, d'ailleurs, avec la directive portuaire. C'est quand même aussi... Et pas les députés, hein, qui ont... C'est... Donc ça pourrait... Ou par la révolution, mais... Non, mais je veux dire... Non, mais l'idée qui est la plus raisonnable aujourd'hui, au vu de... C'est ça. Hein, c'est-à-dire qui rassemble en France le Front de Gauche, qui rassemble Tsipras, qui rassemble la gauche espagnole, portugaise... Avec des difficultés. Vous savez, la vraie gauche au Parlement européen, par exemple, il y a les Nordiques là-dedans. Or, les Nordiques, gagnent... Enfin, ils ont des députés européens parce qu'ils surfent à plein sur la vague du départ de leur pays de l'Union européenne. Hein. Les Danois, tout ça, eux, c'est vraiment... Il faut sortir de l'Europe. Ils sont élus comme ça. Une fois qu'ils sont à Strasbourg, ils sont bien obligés de participer au débat. Mais comme les socialistes et comme la droite, les traditions nationales, elles s'effacent pas d'un seul coup, quoi. Donc, Alors là, il paraît qu'on va avoir une cinquantaine de députés dans le groupe, d'après les sondages. Il faudrait que ça se réalise encore. C'est pas sûr. GUE-NGL. Normalement, les sondages, c'est... Si, c'est le groupe qui va augmenter le plus. Avec un peu moins de députés, là, il y a une erreur, là, dans ton truc, là. Ouais, tu sais, ouais. Il y en a moins, maintenant. C'est stabilisé à 750, quel que soit le nombre de pays qui rentrent.